France Culture, il est 18h. Voici le journal d'Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Première conférence de presse du quinquennat pour Emmanuel Macron. Le président détaille les mesures que lui ont inspiré le grand débat national et le mouvement des Gilets jaunes. 8 ONG accusent la France de participer au cycle de violation des droits des migrants en Libye. Elles se tournent vers le tribunal administratif de Paris pour empêcher la livraison de bateaux français aux gardes-côtes libyens. Joe Biden rejoint la primaire démocrate en vue de la présidentielle américaine. L'ancien vice-président de Barack Obama, 76 ans, est le 20e candidat déclaré pour porter les couleurs démocrates. Et puis la grève continue dans les services d'urgence de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris. Elle touche aussi les urgences pédiatriques comme à Robert Debré où s'est rendu Tara Schlegel. 320 journalistes, dont un tiers de correspondants étrangers, rassemblés dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'est la première fois depuis le début de son mandat qu'Emmanuel Macron se livre à cet exercice de la conférence de presse présidentielle. Il n'est que 18h01, un peu tôt pour vous rendre compte de ses propos. Nous le ferons donc un peu plus tard dans ce journal. 8 ONG demandent à la justice française de suspendre le transfert de bateaux français destinés à la marine libyenne. Pour ces 8 associations, dont Médecins Sans Frontières et la CIMADE, ces bateaux offerts aux gardes-côtes libyens symbolisent l'externalisation vers la Libye des politiques européennes de contrôle des migrations et violent l'embargo sur les armes de l'ONU, d'où ce dépôt d'un recours en référé auprès du tribunal administratif de Paris pour demander la suspension de ce transfert, Christian Chéneau.
Alors que la bataille de Tripoli fait rage, la France s'apprête à livrer 6 bateaux rapides aux gardes-côtes libyens. Un contrat dénoncé par un collectif d'ONG qui estime qu'il viole l'embargo de l'ONU et de l'Union européenne sur les ventes d'armes à la Libye. Car pour Patrick Henriot du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés, il ne s'agit pas d'équipements civils, mais militaires.
C'est des embarcations à coque semi-rigide qui font 12 mètres, qui peuvent encaisser de la haute mer et avec des moteurs extrêmement puissants. C'est vraiment du matériel qui est destiné à faire du contrôle de l'interception en mer. Il est vendu évidemment sans armement, mais on peut très bien installer un pied sur lequel on peut installer une mitrailleuse. Donc évidemment, ensuite, l'usage qu'en font les Libyens, la France n'ira pas contrôler a posteriori quel usage véritablement il en est fait.
Les ONG affirment qu'en livrant ce type de matériel, la France sous-traite la gestion des flux migratoires à la Libye. La mission de ces bateaux, explique Cécile Coudriou d'Amnesty International, n'a absolument rien d'humanitaire.
Ce ne sont pas du tout des bateaux pour faciliter le sauvetage des migrants et des réfugiés en mer Méditerranée, mais au contraire pour faciliter leur renvoi, que nous considérons comme illégal, vers l'enfer libyen. La France se rend complice de politiques migratoires totalement inhumaines, car nous avons aujourd'hui de nombreuses preuves de la façon dont les migrants et les réfugiés sont traités en Libye d'une part, mais aussi par les gardes-côtes libyens.
Du côté du ministère des Armées, on affirme que ces embarcations ne seront pas livrées aux gardes-côtes, mais à la marine libyenne, dans le cadre de sa lutte contre les trafics en tout genre.
Ils l'ont appelé la marche du million. Les leaders de l'opposition soudanaise ont appelé à un immense rassemblement dans la capitale, Khartoum, pour faire pression sur le Conseil militaire de transition, instance au pouvoir depuis le renversement du président Omar el-Béchir il y a 2 semaines. Les dirigeants militaires ont amorcé un dialogue avec l'opposition, mais les manifestants veulent hâter le transfert du pouvoir à une autorité civile. Est-ce qu'ils en ont les moyens, Claude Guibal ?
Les moyens, les protestataires se les donnent, capables de rester mobilisés et de plus en plus 4 mois après le début des manifestations sans se satisfaire du seul départ d'Omar el-Béchir. La transmission du pouvoir aux civils, ils la veulent le plus rapidement possible et pas d'ici 3 mois comme le proposent depuis mardi les pays africains rassemblés à l'initiative du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Pour les manifestants, cette manœuvre pour jouer la montre vise uniquement à permettre aux militaires de s'installer durablement, ce que refuse l'opposition échaudée par le précédent égyptien, où c'est l'armée aujourd'hui plus que jamais qui tient le pays. Lors d'une réunion hier soir avec les représentants de la contestation, les militaires ont fini par accéder à certaines revendications, notamment la possibilité de mise en place d'un conseil conjoint militaro-civil qui permettrait un plan de transition économique et politique sur 2 ans. Mais tout cela reste extrêmement fragile et lié dans un premier temps à la résolution de la crise économique qui a fini par jeter les Soudanais dans la rue en janvier. Alors qui pour venir en aide au Soudan ? L'Arabie Saoudite a par exemple proposé 3 milliards milliards de dollars, une Arabie très proche de certaines figures du Conseil militaire. D'autres sont soutenus par l'Égypte et les autres parrains régionaux. Les États-Unis, eux, ont apporté leur soutien aux protestataires. Quant à la Russie, elle intrigue également en coulisses. Derrière cette millionnaya, cette contestation aux millions de visages, se joue donc un théâtre d'ombre bien loin d'être fini et où les observateurs cherchent aujourd'hui à comprendre qui tire vraiment les ficelles.
Depuis le 19 mars, l'Iran subit des inondations destructrices et meurtrières. Plus de 76 personnes sont mortes, quelques 500 000 personnes ont dû être déplacées. Et autre conséquence de ces pluies torrentielles, 2 millions d'Iraniens ont besoin d'aide humanitaire selon la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Mais l'aide financière est rare, du fait notamment des sanctions économiques américaines. L'agriculture est particulièrement touchée, nous explique le géographe Arnaud Kezerman. Il est doctorant à l'université Lyon 3 et spécialiste de l'agriculture iranienne.
On a environ 25 provinces sur les 31 provinces d'Iran qui ont été touchées. Les précipitations de type inondation ont commencé vraiment dans la région nord. Et maintenant, dans la phase actuelle, elles se concentrent plus dans la région sud-ouest, dans le secteur de Ahvaz. Mais également quelques régions comme celle de Kerman ou de l'Orestan, on a eu hier encore des inondations assez conséquentes. Quand on dit inondation conséquente, ça veut dire 2 mètres d'eau, 200 mm, qui tombent en 24 heures. Environ, ce qui est absolument gigantesque et ce qui rend exceptionnel ce genre d'événement extrême. Et du coup, ça engendre évidemment des destructions, surtout en termes agricoles, avec des champs évidemment inondés, les champs de tout type de culture, maïs, blé, pommes de terre, tout ce qu'on cultive, c'est vraiment le problème principal, quoi. Il y a eu 2 milliards de dégâts estimés, infrastructures, électricité, routes, mais c'est vraiment l'agriculture qui concentre la plus grande partie des dégâts. D'autant que maintenant, on a malheureusement des tempêtes de neige qui s'abattent alors plus sur la région nord-ouest du pays avec des gelées tardives, ce qui fait qu'on a des parcellaires et des cultures qui sont encore, elles, détruites. Cette fois-ci pas par les inondations, mais par des gelées, ce qui pose un véritable problème.
Avec annoncé un vol de criquets, c'est ça, pèlerin assez ravageur, qui va s'abattre sur le pays également.
C'est ça. Alors là, il y a eu encore quelques exemples seulement. Je crois que c'était dans la région de Kerman où on a eu effectivement une invasion de criquets. Vous avez des photos absolument ahurissantes où vous voyez effectivement des nuages de criquets qui détruisent les cultures. Donc avant, ces trois facteurs, quoi, inondation, gelée et maintenant les sauterelles qui vont vraiment détruire cette année, je pense, une grande partie de la production agricole iranienne.
Ouais. Le géographe Arnaud Kezerman répondait à Véronique Reberot. Un sommet inédit, plus symbolique qu'autre chose, mais où chacun a trouvé ce qu'il cherchait. Kim Jong-un a été reçu pour la première fois par Vladimir Poutine à Vladivostok. La rencontre s'est achevée sans déclaration commune, mais le dirigeant nord-coréen a pu réduire son isolement diplomatique, tandis que le président russe plantait un nouveau coin dans la stratégie américaine en insistant sur l'inefficacité des sanctions contre Pyongyang. La correspondance de Claude Bruyot.
Pour gagner sa place de force intermédiaire patentée au cœur du processus de désescalade dans la péninsule coréenne, Vladimir Poutine a fait en sorte de trouver les mots qu'était venu entendre Kim. Entre une référence à l'obtention de garanties légitimes pour la sécurité et la souveraineté nord-coréenne et un proverbe asiatique où il est question d'unir ses forces pour soulever des montagnes, le maître du Kremlin a promis aussi de se faire le messager des intentions de Pyongyang, aussi bien dès demain avec les Chinois qu'il rencontrera, et sans doute aussi rapidement en direction de Washington. Vladimir Poutine a préservé du même coup les intérêts russes, surtout en direction de la Corée du Sud et du Japon. Le Kremlin se doit d'œuvrer à la stabilité de la région, et bien que s'inscrivant officiellement dans le processus onusien de dénucléarisation de la péninsule coréenne, Vladimir Poutine n'a pas manqué l'occasion de critiquer à nouveau les effets pour lui improductifs des sanctions prônées par les Américains. Dès le début de la crise, le président russe avait mis en avant ses connaissances de la psychologie nord-coréenne en précisant à qui voulait l'entendre qu'aucune sanction ne ferait lâcher la maîtrise du feu nucléaire à Pyongyang, précisant même que les habitants du nord de la péninsule étaient prêts pour cela, je cite, « à manger de l'herbe s'il le fallait ».
À 76 ans, Joe Biden se lance dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. L'ancien vice-président de Barack Obama, qui fut aussi sénateur près de 4 décennies, est le 20e démocrate à prétendre affronter Donald Trump l'an prochain. Joe Biden a annoncé sa candidature ce matin et il a publié une vidéo pour s'expliquer, Loïc Loury.
Charlottesville en Virginie, c'est donc avec ces mots loin d'être anodins que Joe Biden est entré ce matin en campagne. La ville est celle de Thomas Jefferson, l'un des pères de l'indépendance américaine, celle également d'événements survenus en 2017.
C'était là, en août 2017. Nous avons vu le Ku Klux Klan, les suprémacistes blancs, les néo-nazis défiler sous nos yeux.
Ce jour-là, des affrontements éclatent entre suprémacistes et militants antiracistes. Une femme est tuée. Donald Trump avait alors prononcé ces quelques mots qui aujourd'hui encore marquent sa présidence.
Il a dit, et je cite, qu'il y avait des personnes très bien dans les deux camps, des personnes très bien dans les deux camps.
Un événement clé, une aberration pour Joe Biden, celui qui l'a poussé à se présenter.
Avec ces mots, le président des États-Unis a moralement mis sur un pied d'égalité ceux qui professent la haine et ceux qui ont le courage de la combattre. Et à ce moment, j'ai compris que je n'avais jamais vu au cours de ma vie plus grande menace contre notre nation.
Le candidat appelle donc à ne pas donner 4 ans de plus à Donald Trump. Nous ne pouvons pas, dit-il, oublier Charlottesville. Le moment irrémédiablement associé au président américain avait choqué l'Amérique. C'est à cette Amérique-là que Joe Biden est en train de s'adresser.
Loïc Loury à New York. 11e jour de grève aux urgences de l'AP-HP. Le taux de mobilisation est stable à 35% selon la direction. Les négociations piétinent car les syndicats maintiennent leurs revendications. Ils réclament 700 créations de postes pour lutter contre un sous-effectif chronique qui affecte tous les services, adultes comme enfants. Tara Schlegel s'est rendue à l'hôpital Robert-Debré qui accueille les plus grosses urgences pédiatriques de France et enregistre 95 000 passages par an. Reportage.
Là, on est au service des urgences, voilà. L'accueil des urgences. Ouais. Ils vont être reçus voilà, par l'infirmière, donc IAO, donc, qui accueille et qui oriente.
Et là, il y a une vingtaine de personnes.
À voir. Juste pour voir l'infirmière. Derrière, il y a encore une salle d'attente pour voir le médecin à ce moment-là et il dispatche entre les urgences médecines.
L'hiver, il y a parfois 390 malades par jour, donc en fonction de l'urgence, ça peut être très long, confirme Camille, qui arbore juste un autocollant en grève.
Quand c'est des choses qui peuvent être traitées en ville, ils peuvent attendre. Hier, il y avait à peu près 6 heures d'attente.
Car au-delà des épidémies, l'une des spécificités ici est d'accueillir 60% de pathologies très lourdes qui demandent du temps, rappelle la chef de service adjointe Dr Smaïl.
On a les drépanocytoses, une maladie dans le sang. Il faut leur faire des perfusions. Parfois, on arrive au palier 3, c'est-à-dire de morphine, qui nécessite une surveillance, c'est-à-dire une infirmière, une aide-soignante. Parfois, ils nécessitent des transfusions en urgence parce qu'ils viennent avec des taux d'hémoglobine très bas. À côté des drépanocytoses, on a les encéphalopathes qui sont suivis en neurologie. Étant donné que leur référent se trouve à l'hôpital Robert-Debré, donc tous ces enfants-là repassent par les urgences. Donc on a les pathologies chroniques, en plus des pathologies aiguës, en plus de l'épidémie, en plus des hôpitaux de périphérie qui n'ont pas de spécialité pédiatrique, qui nous transfèrent les enfants.
Donc, vous voulez dire que vous avez besoin de plus de monde qu'ailleurs ou...
Exactement.
En particulier plus de soignants. Au mieux, ils sont 8 infirmiers la nuit, comme Laurent, pour absorber l'angoisse des parents et des tout-petits.
Les enfants sont très intelligents, ils comprennent ce qu'on va leur faire, mais il faut leur expliquer, il faut prendre le temps, il faut vraiment discuter avec eux, se mettre à leur hauteur, et après discuter autour des contes, des dessins animés, du fait de faire écouter des vidéos avec nos portables. Des fois, on n'a pas le temps. Parce que lorsqu'on prend un enfant en charge, c'est pas 2 minutes top chrono, quoi. C'est un quart d'heure, 20 minutes, même plus des fois sur des enfants qui arrivent et qui sont complètement paniqués. Ils voient une blouse blanche, ils hurlent, ils pleurent. Enfin, on est obligé d'être derrière en disant toutes les âneries du monde et toujours avoir le sourire. Et malgré le fait qu'on soit en sous-effectif, on essaye de garder le sourire, on essaye de se battre.
Car il y a une vraie spécificité des urgences pédiatriques. Or, pour l'instant, pas de taux d'encadrement minimum officiel. Le seul référentiel existant en France concerne les médecins et il est moins exigeant que dans un service d'urgence pour adultes. Pourtant, rappelle la médecin du travail de Robert-Debré, qui s'occupe de plus de 3000 agents, le sous-effectif chronique mine ce service.
C'est stressant les urgences quand même, donc il faut pouvoir de temps en temps un petit peu souffler. Donc là, ils n'ont jamais le temps de souffler, ils courent tout le temps, ils n'ont même pas le temps de manger. Enfin, après, les urgences, c'est pas facile, ça on le sait, mais justement, à mon sens, en tant que médecin du travail, on devrait leur permettre d'avoir un petit peu de souplesse et de pas tout le temps être sous l'eau, en flux tendu, comme ça, à être même rappelé quand il n'y a pas assez de monde. Enfin, voilà.
Après 11 jours de grève, la direction de la PHP propose de créer 61 postes aux urgences, dont 2 a priori pour Robert-Debré.
Tara Schlegel, à l'hôpital Robert Debré à Paris. Il avait lancé le grand débat national le 15 janvier en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes. Depuis, le mouvement a baissé en intensité, mais les appels à manifester n'ont pas cessé. Emmanuel Macron, qui avait reporté ses annonces à cause de l'incendie de Notre-Dame de Paris, donne en ce moment même une conférence de presse devant quelques 320 journalistes. Une déclaration d'une vingtaine de minutes pour donner des perspectives et un cap, puis les mesures détaillées au cours des échanges avec les journalistes. Voilà ce qui nous a été annoncé. Le chef de l'État a donc commencé son discours et il a commencé par dire sa fierté d'avoir organisé ce grand débat national.
La grande fierté qui est la mienne, d'avoir vu durant ces mois nos concitoyens prendre part à ces débats, dire leur part de vérité, proposer, réfléchir. Et j'ai moi-même beaucoup appris de notre pays, aux côtés des maires, sur la fonction qui est également la mienne, durant ces mois. J'ai beaucoup appris, et cette fierté que j'évoquais m'a convaincu d'une chose. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des Lumières. Et c'est de ce débat, de ces délibérations, de cette capacité à dire et contredire, mais dans le respect de l'autre, que peut naître que peuvent naître les bonnes solutions pour le pays, et en aucun cas dans l'obscurantisme ou le complotisme. On ne bâtit pas sur la haine de soi, la jalousie de l'autre, mais bien plus dans la juste compréhension de ce que nous sommes et des défis qui sont devant nous.
Les transformations menées n'ont pas été suffisamment rapides, mais les orientations prises ont été justes, déclare également Emmanuel Macron. Extrait donc de sa conférence de presse donnée en l'Élysée. Nouveaux extraits et analyses par le service politique ce soir dans le journal de 22h. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, convoque 3 journalistes, dont notre confrère de Radio France, Benoît Colomba, dans le cadre d'une enquête pour atteinte au secret de la défense nationale. Leur tort, avoir publié la semaine dernière un rapport émanant de la Direction du Renseignement Militaire sur l'utilisation d'armes de fabrication française dans la guerre du Yémen. Antoine Marette a recueilli la réaction de Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France. Pour elle, Paris se cache trop derrière le secret défense.
Pour nous, c'est quand même très grave, parce que c'est porter atteinte à la liberté d'expression. Et nous considérons en l'occurrence qu'il s'agit d'une affaire d'intérêt général. Et donc, c'est tout à fait dans le rôle d'un journaliste que de révéler ce genre d'informations. La manœuvre consiste à faire pression sur les journalistes pour qu'ils révèlent leurs sources, alors que justement, le secret des sources est l'un des piliers, c'est absolument fondamental pour la liberté d'investiguer, la liberté du journalisme. Donc c'est pourquoi nous prenons très au sérieux ce qui se passe actuellement, car pour nous, la question de l'intérêt général, ici, justifie amplement le travail d'investigation et les révélations qu'a pu faire ce site Disclose.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème plus général du gouvernement français vis-à-vis de la liberté d'informer ?
D'une part, il y a un problème de manque de transparence. Donc c'est la liberté pour les citoyens d'avoir accès à une information, y compris l'information qui devrait être révélée par le gouvernement lui-même, ainsi que par les parlementaires qui devraient pouvoir jouer leur rôle pleinement dans ces questions de transfert de matériel militaire ou d'armement. Donc là, ça n'est pas le cas. Et en effet, le second problème, c'est des attaques aux libertés fondamentales, telles que celui de la presse. Et là, on voit bien qu'il y a une volonté de faire pression sur des journalistes, d'aller jusqu'à les menacer de peine de prison, alors qu'il s'agit très clairement d'intérêt général et d'informations qui doivent être divulguées à l'ensemble de la population.
Cécile Coudriou d'Amnesty International France. La plateforme YouTube va labelliser ses vidéos provenant de médias bénéficiant de fonds publics. Ces labels seront lancés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Pologne. À un mois des élections européennes, l'objectif est, selon Google, d'aider les utilisateurs à mieux comprendre les sources de contenu d'actualité. Alors Marion Claveri, à quoi va ressembler ce label exactement ?
Il serait indiqué sous la vidéo « Ce média est financé en totalité ou en partie par tel ou tel État ». D'après Google France, ce label est déjà visible aux États-Unis et devrait apparaître dans plusieurs pays européens avant les élections européennes. Pourtant, le représentant français du numérique à la Commission européenne, Gilles Babinet, n'était pas au courant. Il s'inquiète du fait que le financement par un État soit le seul critère pour obtenir ce label.
Je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'on dise que dans l'ensemble des pays européens, ce sont les médias officiels qui vont faire foi. Autant je pense que en France, les médias officiels, entre guillemets, ou financés par des fonds publics, ben dedans, vous avez quand même des tas de journaux, entre guillemets, d'opposition, hein. Donc, en France, moi, je considère que ça fonctionne. En Hongrie, je considère que ça fonctionne potentiellement pas.
Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, les géants du numérique ont été pointés du doigt. On reproche par exemple à Facebook d'avoir laissé des entreprises russes financer en masse des campagnes de publicité pour influencer le vote. Le réseau social a alors promis que l'identité des annonceurs serait désormais vérifiée et que les internautes y auraient accès. Gilles Babinet attend toujours.
Ça n'a pas été fait. En tout cas, ça a fait l'objet d'un article de fond du New York Times récemment. Et j'ai trouvé ça très inquiétant qu'à quelques semaines des élections européennes, on en soit toujours là.
Le représentant français du numérique suggère deux solutions. Taxer plus lourdement les géants du numérique ou créer une sorte d'ordre des journalistes chargés de vérifier les informations en ligne.
Google n'aura pas à verser plus d'1 milliard d'euros de redressement fiscal en France. La Cour administrative d'appel de Paris confirme les jugements de première instance. Mais à l'avenir, les choses pourraient changer puisque le 9 avril, les députés ont adopté un projet de loi instaurant une nouvelle taxe applicable aux géants du numérique. Demain vendredi, encore un temps instable avec passage nuageux et risque d'averse. Les températures minimales iront de 4 à 13 degrés, les maximales de 13 à 20. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.